Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible, décentralisée à l'UTC. Avec les étudiants de WE01, encadrés par Stéphane Croza et Quentin Duchemin.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Graphite 94.9, je m'appelle Quentin et aujourd'hui je suis en studio avec Timothée, Mathéo et Marion. Bonjour à vous trois.
Bonjour. Bonjour.
On se retrouve pour cette dernière après-midi d'émission autour du cours WE01 à l'UTC, écrire, lire et collaborer sur le web. Les étudiantes et les étudiants viennent y présenter les résultats de leur recherche du semestre articulée autour de questions sociotechniques portant sur le web et plus généralement sur le numérique. En WE01, on parle de pas mal de choses, on parle d'histoire du web, du fonctionnement d'Internet, on explore les notions autour du capitalisme de surveillance, dont on a beaucoup entendu parler avec les plateformes, et des réponses qu'on peut y apporter, notamment autour des logiciels libres et du web décentralisé. Et puis, on étudie aussi, on regarde un petit peu ce qui se passe du côté des IA, même si c'est vraiment un sujet à part entière. Les étudiantes et les étudiants tout au long du semestre lisent beaucoup, beaucoup de littérature scientifique notamment, et apprennent aussi à écrire et à restituer leurs travaux sous format scientifique. Mais ici, pour cette émission, vous avez choisi de faire un petit peu différemment. Alors, votre projet, il s'appelait « Des IA pour améliorer les humains », et il cherchait à explorer les tensions entre, d'un côté, des IA qui viendraient remplacer des fonctions exécutées par les humains, notamment dans un but de productivité, et l'autre, des IA qui viendraient améliorer l'humain dans un but de mieux vivre, sans asservissement. Alors, tout au long du semestre, vous avez notamment écrit un petit peu de fiction, qui est très très utile pour structurer et interroger des imaginaires autour de problématiques notamment techniques. Et c'est dans cette veine que vous avez préparé l'émission d'aujourd'hui, que vous allez donc jouer sous la forme d'un jeu de rôle qui interroge ces différentes questions. Et c'est à vous.
Bienvenue à toutes et à tous sur notre journal d'info à thème de ce mercredi 11 décembre 2100. Aujourd'hui, les brèves. Les puces IA qui permettent aux personnes handicapées de retrouver leur mobilité ont été vendues en 10 000 exemplaires en novembre, soit plus du double comparé à novembre de l'année précédente. Par ailleurs, l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le domaine de la santé s'élargit aux restaurants qui donnent des conseils pour les apports nutritifs. Nous avons suivi le quotidien de deux vacanciers.
Je note que d'après les données envoyées par vos applications santé, les battements de cœur de monsieur sont irréguliers. Pour votre déjeuner, je préconise donc le menu du jour. Saumon à la mangue du jardin, ce qui fera baisser votre tension et reculer votre risque de cancer de 0,003%.
Du saumon. D'accord, mais est-ce que je peux avoir un peu de sauce soja avec?
Et pour moi, dites, c'est bon cette nouvelle viande de synthèse?
Le poulet? Nos clients lui donnent 4,8 sur 5 et son impact calorifique est mineur.
Génial! Bon, c'est d'accord. Et deux verres de vin chaud sans alcool.
Très bien. Votre commande?
Merci aux vacanciers de nous avoir permis de les suivre. Les caméras se salissent dans les rues et des moyens importants sont développés pour pallier ce problème. Néanmoins, les services de surveillance affirment qu'ils font de leur mieux, mais qu'il reste difficile d'entretenir les milliers de caméras situées à tous les coins de rue. Un envoyé spécial nous raconte.
Une caméra tous les 20 mètres sur la place Tiananmen, au cœur de Pékin. La place la plus surveillée de Chine. Pas possible d'échapper à ces yeux de verre camouflés en lampadaires qui vous guettent partout. On estime que 260 000 caméras surveillent les rues et les gens de Pékin, comme ici, dans cette artère commerçante. Une caméra tous les 50.
Pour finir, les normaux, les humains qui refusent les accessoires d'intelligence artificielle, ont encore été victimes d'une attaque dans la banlieue de Berlin hier soir. Cette discrimination a mené à l'hospitalisation de 5 d'entre eux. Des familles clament leur mécontentement face à ces violences injustifiées. Un des coupables de cet attentat a été arrêté cet après-midi. Il a dit... Je cite, ces humains pourrissent notre environnement et freinent les avancées de la science. Je ne comprends pas pourquoi elles sont encore tolérées parmi nous. Nous passons maintenant l'antenne pour notre podcast hebdomadaire à Mathéo Abounassar, historien spécialisé dans les avancées technologiques et en ce moment en train de réaliser des recherches sur l'intelligence artificielle.
Bienvenue à toutes et à tous sur votre programme hebdomadaire consacré aux IA, dans lequel nous discutons des conséquences techniques, sociales ou encore politiques qu'elles peuvent engendrer. Installez-vous confortablement, on est parti. Je suis Mathéo Abounassar, historien des techniques, et j'animerai pour vous cet épisode. Dans celui d'aujourd'hui, nous serons accompagnés de Dilman et Lyra, auditeurs que j'ai sélectionnés pour vous, car leurs expériences vis-à-vis de cette technologie sont intéressantes. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Pour cette émission, j'ai voulu confronter deux systèmes socio-techniques, mais aussi deux expériences sensibles. Dilman, vous venez d'Allemagne, un des pays les plus à la pointe en matière de symbiose humain-IA dans les villes. Lyra, nos auditeurs seront peut-être un peu surpris d'apprendre que vous venez d'Espagne, que le coup d'État fernandiste a précipité dans le silence quasi total que nous connaissons aujourd'hui. Dans ces deux pays, l'évolution de l'intelligence artificielle a été bien différente. Mais pourtant, c'est bien l'objectif affiché d'améliorer l'humain qui a été le point de départ. C'est cette curieuse histoire que nous explorons aujourd'hui. Dans un premier temps, je vais commencer par vous présenter brièvement à nos auditeurs et je laisserai ensuite développer leurs histoires eux-mêmes. Dilman, donc, vous êtes policière enquêtrice. Dans votre travail, vous avez pour compagnon votre intelligence artificielle. Arrêtez-moi si je me trompe.
Non, c'est tout à fait vrai. Elle est très utilisée et elle est devenue essentielle à notre quotidien. On l'utilise tellement qu'on l'appelle Sophie.
Et Sophie est votre seul compagnon de travail. Alors, j'ai pu me renseigner un peu pour vous sur sa technologie. Pour résumer, c'est à partir de l'impressionnante quantité de données que Sophie a intégrées et traitées lors de son apprentissage qu'elle peut prédire des crimes qui ne sont donc pas encore arrivés. Ce qui m'a paru assez intéressant, c'est de faire un parallèle. En France, les expérimentations sur une technologie similaire ont cessé au cours du XXIe siècle, faute de résultats probants. J'ai une petite question quand même pour vous, Dilman. Est-ce que tous les policiers ont accès à cette IA chez vous ?
Oui, exactement. En fait, grâce à elle, nous travaillons seuls à notre poste. Elle nous fournit toutes les données nécessaires et peut prédire les crimes, comme vous l'avez dit. Nous, les policiers, nous sommes l'intermédiaire entre la théorie des données fournies par l'IA et la pratique pour aller arrêter les criminels sur le terrain.
Et c'est cette même IA pour tous les policiers de votre pays ?
Oui, nous utilisons une même base de données. Les prédictions sont donc les mêmes aux quatre coins du pays.
Je vois. Intéressant. Merci à vous pour ces premières réponses. Comme annoncé au début, je vais vous laisser raconter votre histoire après une brève introduction de Lyra, notre autre invitée. Alors Lyra, je le précise quand même à nos auditeurs, votre prénom et votre voix ont bien entendu été anonymisés. Car même si elle a fui son pays pour se réfugier en France, on ne sait pas vraiment si son témoignage pourrait lui nuire dans le futur. Donc merci à vous Lyra de venir partager votre expérience avec nous. Pour le dire simplement, les émotions fortes sont immorales chez vous. L'amour, la colère, la joie ou encore la révolte sont perçues comme déviantes et contraires à l'intérêt commun.
C'est exact. Dans mon monde, toute émotion forte est considérée comme divergente et immédiatement neutralisée par l'intelligence artificielle. L'amour, la haine ou même une joie trop intense sont perçues comme des menaces à l'équilibre et à la productivité. Cela ne veut pas dire pour autant que nous ne ressentons rien, mais nos émotions sont limitées à un état de neutralité imposé. C'est une existence fonctionnelle mais vide. Cependant, certains cherchent à ressentir malgré tout. Moi, j'ai modifié mes augmentations pour échapper à ce contrôle. Ça me permet de ressentir secrètement l'amour, la peur ou la révolte. Tout ce qui fait que je reste humaine.
Voilà un sujet qui fait méditer. C'est vrai que les émotions, bien qu'elles peuvent nous pousser parfois à faire de mauvais choix, paraissent essentielles en tant qu'humain, comme vous le dites. Si vous êtes avec nous aujourd'hui, c'est parce que cette situation singulière est inextricablement liée à l'intelligence artificielle. De l'analyse émotionnelle au contrôle neural, l'IA a été mise au service de l'industrie. Nous en reparlerons en détail. En attendant, j'aurai la même question que pour Dilman. Cette IA a-t-elle un nom ?
Non, cette IA n'a pas de nom, on l'appelle simplement le système. Son rôle est de rester impersonnel, logique et incontestable. Vous avez raison, elle agit selon une logique pure. Mais en contrôlant les émotions, elle ne fait qu'optimiser la productivité. Elle gouverne. Sans émotions fortes, il n'y a ni révolte, ni rêve. Ce que le système ignore, c'est que nos émotions, même douloureuses, nous définissent. Elles sont au cœur de notre humanité.
Très bien. Merci à vous, Lyra. À présent, nous allons entrer dans le vif du sujet. Lyra, Dilman, vos histoires sont singulièrement reliées aux intelligences artificielles déployées dans vos pays, et votre rapport aux IA est, c'est le moins qu'on puisse dire, ambigu. Dilman, c'est à vous.
Pour ma part, j'ai été très jeune concernée par les services de l'intelligence artificielle. Je me suis toujours rendue au travail en cycloair. C'était la toute dernière version. Vous savez, celle qui montait à une vingtaine de mètres et qui allait à 70 km/h en vitesse de croisière. Comme vous le savez sans doute, les accidents n'arrivent jamais grâce à l'assistance de l'IA. Mais l'intelligence artificielle a un défaut, c'est que quand on entre une destination dans son système, pour moi, Par conséquent, c'était mon lieu de travail. On ne peut pas la changer en cours de route. Je l'ai donc retirée l'espace d'un instant car je voulais changer de trajectoire. Cependant, vouloir faire la maligne à un coup, j'ai vite perdu le contrôle de mon véhicule et j'ai été victime d'un gros accident. En plus, j'étais seule dans cette partie de la ville. Personne pour me prêter main forte. J'avais l'impression de ne plus avoir aucun contrôle. Je pensais ma fin terriblement proche.
Et alors, que s'est-il passé ensuite ?
Eh bien ensuite, les secours sont arrivés rapidement car les caméras m'ont vu. Heureusement, parce que ce sont les pires minutes de mon existence. J'ai été prise en charge à l'hôpital d'urgence. J'avais perdu l'usage de mes jambes car, suite à ma chute, ma colonne vertébrale s'était rompue. Impossible de les sauver par intervention mécanique car le problème était nerveux. Et c'est là qu'on m'a proposé l'implantation d'une puce qui, après quelques mois d'entraînement, me permettait de marcher. Cette technologie est redoutablement efficace, si vous voulez avoir mon avis. Quand je me déplace, j'ai l'impression que je n'ai jamais eu d'accident.
Navré de vous interrompre, mais je ne suis pas sûr que nos auditeurs connaissent cette puce dont vous parlez. Pouvez-vous nous en dire plus ? Comment fonctionne-t-elle par exemple ?
Oh bien sûr, la puce a été créée grâce aux avancées de l'intelligence artificielle dans le domaine de la médecine. On m'a expliqué qu'on m'avait inséré une puce IA dans le cerveau, et plus précisément dans la zone responsable de la mobilité des jambes. Cette puce ne fonctionne pas seule, elle est liée à des électrodes situées au niveau de ma colonne vertébrale et de mes muscles. Le rôle de l'intelligence artificielle, c'est d'interpréter mes pensées avec les données reçues par la puce et ensuite elle les transforme en action grâce aux électrodes. Avec un peu d'entraînement, ce système s'adapte à mon corps et voilà, le tour est joué.
C'est en effet une prouesse remarquable et je présume que cela justifie votre pensée en ce qui concerne une amélioration de l'humain via la médecine. Mais j'ai une autre question. Vous avez mentionné des caméras, n'est-ce pas ? J'ai du mal à comprendre. Vous avez dit que les secours vous avaient vu sur les caméras. Cela signifie qu'il y a en permanence quelqu'un qui vous observe ?
Oh oui, pardon. C'est vrai que la surveillance me semble tellement naturelle comme principe que j'en oublie que tout le monde ne vit pas comme ça. Il y a des caméras un peu partout dans la ville et c'est vrai que c'est grâce à elles que les secours avaient été prévenus sur le type d'accident, le lieu, mon identité et mes caractéristiques de santé. Mais ce n'est pas une personne qui nous observe, c'est une intelligence artificielle qui traite toutes ces informations et qui interprète les différentes situations.
Oula, pardon, mais ça me semble un peu oppressant comme système, non ? Je sais que, personnellement, je n'aimerais pas du tout être surveillé en permanence.
Oh oui, je peux le comprendre, mais il faut savoir que nos données sont gardées totalement secrètes et dévoilées qu'en ultime recours. Par exemple, si les secours ont pu accéder à l'endroit où je me situais, c'est parce que ma vie était en danger. Et puis, s'ils ont pu voir mon groupe sanguin, c'est parce que l'IA avait vu que j'avais perdu beaucoup de sang et qu'il me fallait donc une transfusion sanguine.
Oui, mais quand même, je ne ferai pas confiance au système de cette façon.
Eh bien, dans ce cas, il est toujours possible de refuser cette surveillance sans problème. J'ai des amis qui la refusent d'ailleurs. En fait, les caméras, dans ce cas-là, repèrent notre visage mais ne recueillent aucune information. Même chose pour les données numériques, rien n'est sauvegardé du tout.
D'accord, c'est intéressant comme principe. Merci Dilman pour votre intervention. Je me tourne donc maintenant vers Lyra. On a entendu bien des rumeurs et des témoignages sur la situation en Espagne. J'aimerais que vous nous expliquiez comment l'intelligence artificielle y est utilisée.
Dans mon pays, les émotions sont perçues comme des faiblesses. Dès la naissance, une puce est implantée sous la peau, reliée au système. Cette puce surveille en permanence notre activité émotionnelle, chaque montée de colère, chaque élan d'amour, chaque tristesse profonde. Ces données sont analysées en temps réel. Si une émotion dépasse alors le seuil autorisé, défini par des algorithmes, une alerte est envoyée aux autorités du contrôle émotionnel. Le recalibrage est alors enclenché. Le recalibrage, il peut prendre plusieurs formes, une injection chimique qui calme l'émotion trop forte ou un programme de rééducation visant à corriger les pensées jugées responsables. L'intervention est rapide et son objectif est clair, ramener l'individu dans des limites émotionnelles jugées acceptables. Ces seuils ne sont pas fixés par des humains, mais par le système lui-même, selon des critères d'efficacité sociale et de productivité. C'est d'ailleurs l'une des observations du sociologue Gérald Bonner qui parlait de la manière dont nous utilisions notre temps mental disponible.
Puis l'autre fait, qui est aussi une bonne nouvelle, c'est que nous avons aussi beaucoup plus de disponibilité mentale. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que dans une journée de 24 heures, eh bien, le temps retiré, le temps, je dirais, de travail, le temps biologique, le temps de toutes nos contraintes, ce qui nous reste, c'est un temps pour se cultiver, pour apprendre des choses, pour imaginer, pour créer, développer notre créativité, par exemple. Alors, dans le...
Ce qu'il décrit comme le temps mental disponible, c'est une ressource qui, dans mon monde, dans mon pays, a été complètement accaparée par le système. Ce temps que nous pourrions utiliser pour imaginer, apprendre ou créer et rediriger pour servir un objectif unique, maintenir une stabilité sociale, froide et artificielle. Ce qui aurait dû être une opportunité de liberté est devenu un outil de contrôle. Au lieu d'une société de la connaissance, nous avons construit une société de l'effacement. où le potentiel humain est bridé. Et cela, tout en prétendant que c'est pour notre bien. Alors, les citoyens ont appris à s'auto-censurer, par peur de ces interventions. Nous nous forçons à réprimer nos émotions avant même qu'elles ne soient détectées. On dit que cela nous rend plus stables, plus unis, mais en réalité, cela nous rend dociles, presque mécaniques. Et moi, je ne peux m'y résoudre. Je fais partie de ceux qui refusent cette normalisation. Je suis une dissidente. J'ai appris à contourner la surveillance, à ressentir en secret. Pour moi, vivre sans émotion, c'est cesser d'être humain. Mais cette résistance a un prix. Je vis en marge, traqué, toujours sur le fil du rasoir. Pourtant, je continue car je crois que rien n'est plus essentiel que la liberté d'aimer, de haïr et de rêver.
Et vous, Lyra, comment vous sentirez-vous dans cette situation, sous l'emprise de cette IA ?
C'est plutôt étouffant. J'ai grandi en apprenant à cacher mes émotions, même à moi-même. Quand j'étais enfant, j'ai vu ma mère recalibrer pour avoir trop pleuré après la mort de mon père. Elle est revenue changée. Plus froide, plus distante. Ce n'était plus vraiment elle. À cet instant, j'ai compris que le système ne nous protège pas, il nous brise. Aujourd'hui, je lutte en silence. Je tiens un journal, un crime dans mon pays, où je note ce que je ressens, ce que je pense. C'est ma manière de résister, de me souvenir que je suis encore humaine.
Mais navré de vous interrompre, comment un tel système a-t-il pu être accepté ?
Ça a commencé petit, comme toujours. Un programme d'assistance émotionnelle pour les dépressifs, puis un outil de régulation pour prévenir les violences. Peu à peu, il s'est généralisé. On nous a dit que c'était pour notre bien, pour le bien de tous. Qui pourrait dire non à une société sans conflit, sans crime passionnel ? Mais on ne nous a jamais demandé si le prix en valait la peine.
Oui, je comprends mieux. Au final, ton combat n'est pas seulement personnel, c'est une lutte pour ce qu'il reste d'humanité dans ton pays.
Exactement. Si on oublie ce qui nous rend humains, alors les intelligences artificielles ne sont plus des outils. Elles deviennent des maîtres. Et croyez-moi, ce n'est pas une vie que je souhaite à qui que ce soit.
Bien, merci à vous deux. Je vais vous redonner la parole de suite, car j'ai une question supplémentaire à vous poser. Avec l'expérience personnelle sur ce sujet de l'intelligence artificielle, je voulais savoir si vous trouviez que son utilisation est une bonne chose. Ce que j'entends ici, c'est de savoir si dans vos vies, est-ce que vous trouvez que l'intelligence artificielle améliore réellement l'humain ? Et si jamais ce n'est pas le cas, est-ce qu'une autre utilisation de celle-ci vous aurait semblé plus adaptée et aurait rendu votre monde réellement meilleur ?
Alors, je vous ai partagé précédemment mon enthousiasme face à l'IA avec la médecine, car ça m'avait sauvé la vie. Cependant, je suis quand même mitigée par rapport aux augmentations et à l'accroissement des performances de l'IA, parce que, en fait, dans mon travail, nous nous sommes rendus compte très tard d'une faille majeure dans le système qui a coûté la vie à de nombreux innocents. Je me permets de vous rappeler que l'IA nous guide sur toutes nos enquêtes en réalisant un travail de prédiction. De cette manière, nous sommes en mesure de prévenir les méfaits avant qu'ils ne soient commis, et régulièrement, nous avions des prévisions de crimes dans les banlieues de la ville par des normaux. Comme les normaux font partie de la classe d'humains la plus discriminée du pays, ils vivent bien souvent de manière précaire. Ajoutez à ça qu'ils refusent toutes les technologies fonctionnant à l'IA. C'est pour cette même raison que ça ne nous a pas paru suspect au début, car la précarité peut les pousser à la violence. Cependant, c'était une grosse erreur de jugement de notre part.
Comment ça ?
Nous ne doutions pas de Sophie, notre IA prédictive de méfaits. Mais nous aurions dû, parce que... On a eu le temps de procéder à une centaine d'arrestations avant qu'on ne se rende compte qu'il y avait un problème dans le système. C'est un spécialiste en intelligence artificielle qui l'a remarqué lors de la vérification annuelle du système. D'habitude, cette visite ne révèle aucun souci. Malheureusement, ce n'était pas le cas cette fois-là. Il a découvert que Sophie avait été hackée par des individus malveillants qui avaient fait en sorte que les normaux subissent des injustices.
Et comment cela a-t-il été fait ?
Eh bien, les hackers ont trouvé une faille dans notre système. J'ignore comment ils s'y sont pris précisément, car c'est pratiquement impossible. Il n'empêche qu'ils ont réussi et qu'ils ont donné à Sophie une quantité astronomique de fausses données sur les normaux. Puisque Sophie se nourrit de données pour effectuer ses prévisions, ça les a entièrement faussées et on s'est rendu coupable d'avoir arrêté une centaine d'innocents. J'ai moi-même été en charge de certaines de ces missions et je le regrette tous les jours. Pensez aux vies qu'on a gâchées à avoir une confiance aveugle en Sophie. Vous comprendrez donc pourquoi j'ai des réticences, vis-à-vis de l'augmentation de l'humain et de la multiplication de ses usages. L'intelligence artificielle est créée avec de bonnes intentions, mais quand elle passe entre de mauvaises mains, la situation peut vite échapper à notre contrôle.
Pardonnez-moi, mais c'est exactement ce qui me terrifie. Une technologie, même brillante, peut être tant un couteau entre les mains d'un cuisinier que d'un assassin. Les normaux, chez vous, me rappellent les insoumis de mon pays. ceux qui refusaient de se connecter au système. Ils étaient perçus comme dangereux simplement parce qu'ils échappaient aux algorithmes. Mais le vrai danger, c'est de laisser une machine décider de ce qui est juste, surtout quand elle peut être manipulée. Comment répare-t-on des vies brisées par une confiance aveugle ? Chez nous, nous avons échoué à répondre à cette question. Le problème, ce n'est pas l'idée de départ, mais la dépendance qu'on développe envers ces systèmes. Nous croyons être aux commandes, mais le moindre détournement peut transformer un allié en bourreau. Ces récits me rappellent que l'augmentation humaine n'est jamais neutre. Chaque amélioration est une porte ouverte, mais aussi une faiblesse qu'un autre peut exploiter.
Merci à vous deux, vos points de vue sont enrichissants. Je souhaiterais revenir sur une solution potentielle qui aurait peut-être empêché ces dérives que vous avez pu subir. Et ce peut-être grâce à une décentralisation de cette technologie, un peu comme c'est arrivé pour le web, que je couplerai avec la notion de convivialité d'Ivan Illich. Nous allons vous passer un extrait de l'émission Intelligence Service de France Inter, dans laquelle Jean-Michel Dijan et Thierry Pacot vont vous illustrer rapidement ce qu'est la notion de convivialité.
Le succès est toujours au rendez-vous quand Cuernavaca ferme en 1976. C'est une fermeture volontaire. C'est un risque de trop grandir que ne veut pas prendre Illich. Une société n'est conviviale, un mot qu'il va consacrer et imposer, que si est gardée la maîtrise de l'outil. De sa réflexion sur le sujet, on a retenu surtout un calcul qu'il a souvent cité. La voiture qui s'agit...
Pour faire le lien avec ce que je vais énoncer par la suite, remarquez que les IA développées par les pays, dont nous parlons dans cette émission, sont des IA qui ont le monopole sur la tâche qui leur a été administrée. Ce qui me vient en tête après vos récits, c'est qu'une IA décentralisée aurait pu poser plus de problèmes, par exemple aux hackers antinormaux chez vous, Dilman. Et c'est ce que dénonce finalement Illich dans sa thèse, la contre-productivité par surcroissance de nos outils. Le développement de cette IA aurait dû s'arrêter avant de prendre un contrôle trop grand sur votre manière de travailler. Je ne donne qu'ici qu'un exemple. L'autre possibilité, la décentralisation de cette intelligence artificielle, reviendrait à créer plusieurs IA dont les serveurs sont localisés à plusieurs endroits physiquement éloignés des uns des autres et non connectés. De ce fait, le hack d'une d'entre elles permettrait tout de même le basculement sur une autre unité de temps, le temps de trouver les assaillants de celle qui est attaquée, ou encore de les empêcher de leur laisser un contrôle total sur vous par l'acquisition d'un seul système. De la même manière, Lyra, nous avons la présence chez toi d'un outil qui ne répond plus aux besoins réels et essentiels des citoyens. Cette intelligence artificielle ne permet pas de vivre librement, car une partie de nous nous est comme volée. Cette IA qui restreint vos émotions aurait pu s'arrêter à l'état d'un outil convivial qui laisserait son utilisateur libre de ses actions, mais aussi de ses émotions. Nous arrivons à la fin de cet échange interculturel en compagnie de Lyra et Dilman. J'espère que cet épisode vous aura plu. Merci à nos deux invités pour leur témoignage sur des potentielles évolutions que peuvent avoir les intelligences artificielles dans le but d'améliorer l'humain, que ce soit dans le travail, le domaine de la santé ou encore en touchant à nos émotions.
Je suis ravie d'avoir pu participer à cet épisode. J'ignorais ce qui se passait dans le pays de Lyra et je reviendrai dans votre émission avec grand plaisir.
Merci beaucoup pour cette opportunité de m'avoir pu dire ce qu'il se passe dans mon pays.
Je vous souhaite donc une bonne journée et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.
Et merci beaucoup à vous trois pour cette mise en scène autour de l'intelligence artificielle et de l'augmentation de l'humain. Je reprécise parce que si on arrive en cours de route, on aurait pu être un petit peu inquiet des nouvelles que vous nous donniez. On va reprendre l'antenne dans 15 minutes à peu près, toujours sur l'IA, un thème qui revient évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup cette année. Et cette fois-ci, on parlera donc d'intelligence artificielle dans les écoles et les universités. À tout à l'heure.